Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Thierry Dagiral, et on décortique toute l'actu avec les grandes voix qui sont là autour de vous ce soir, Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve. Et aussi avec vous, les auditeurs, toutes vos questions, vos réactions au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis ravi de vous voir là en studio pour analyser avec vous ce nouveau gouvernement. C'est un luxe que l'on offre à nos auditeurs. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur la surprise du chef Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Que va-t-il faire dans cette galère, Catherine Ney ?
Oui, surtout qu'il y a quelques années, on lui avait demandé, vous verriez, un jour ministre de la Justice, il avait dit moi, mais même pas en rêve, j'en serais incapable. Enfin donc, ce n'était pas du tout une chose qu'il avait envisagée. Puis peut-être, parce qu'il est devenu un acteur au fur et à mesure, il a d'abord été un grand avocat, mais quand on fait du théâtre, quand on aime tellement la télévision, c'est vrai que le théâtre politique, et si on veut changer les choses, c'est peut-être aussi qu'on croit à la politique et qu'il espère... imprimer sa marque. En tous les cas, le président l'a choisi. C'est pas seulement parce que c'est un homme de théâtre, c'est pas seulement de la communication.
Michel Cotta, il disait récemment sur Europe 1 qu'il aimait la liberté de parole. On le sait, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ?
Non, mais c'est tout le pari. Évidemment, il me semble que quand le président de la République ou le Premier ministre prennent Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, ils s'attendent à la fois à ce qu'il garde sa spontanéité, parce que sinon c'est pas marrant, et à la fois à ce qu'il joue le jeu. On va bien voir.
On attend avec gourmandise les questions d'actualité, parce qu'on lui posera des questions et ça sera le numéro.
C'est quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ses plaidoiries et qui va se concevoir maintenant comme avocat au service des autres avocats et peut-être.
Mais pas seulement. Il reste
le projet numéro un qu'il a exposé ce matin, l'indépendance. L'indépendance des
parquets. La réforme du parquet.
Ça, c'est un vaste problème sur lequel les gens travaillent depuis très longtemps. Il y a déjà eu je ne sais pas combien de commissions avec toujours des juristes qui disent c'est bien qu'un parquet l'indépendance. C'est toujours des hommes de pouvoir qui disent attention, il faut aussi que le gouvernement, que l'exécutif en place puisse faire passer une ou deux recommandations écrites au besoin. Voilà. Alors, c'est-à-dire que s'il met ça comme premier pas dans sa comme premier poids dans sa balance, c'est vrai que ça risque d'être assez drôle.
Charles Villeneuve, assez drôle, grande gueule, du nord, de gauche, incontrôlable, Dupond-Moretti.
Je crois qu'il se contrôle très bien. Au contraire, il a si vous voulez, profession de foi chevillée au corps, les défendre tous. Il faut bien comprendre que c'est l'avocat parfait sur ce plan-là. Et n'oubliez pas qu'il n'a pas seulement été un avocat de la défense, il a été aussi partie civile. Donc, il a été aussi un allié des procureurs. Donc, il sait tout faire. Il a plusieurs rôles. Il ne faut pas regarder... moi, c'est mon opinion. Je l'ai vu plaider au moins 15-20 fois. Je le connais assez bien. Et d'ailleurs, une demi-heure avant l'annonce du gouvernement, je l'ai appelé. Je lui ai demandé, je lui ai dit « C'est vrai, vous allez accepter d'être... » Mais vous imaginez, vous qui blâmez l'arrogance, le corporatisme des magistrats sur lesquels vous avez écrit tellement de choses qui font que, d'ailleurs, une secrétaire générale, notamment l'Union syndicale des magistrats, a dit que c'est une déclaration de guerre. Il a très bien répondu à ça parce qu'il a un vrai talent. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que si le président de la République a cru qu'il allait troquer sa robe noire pour la toge symbolique de ministre de la Justice et rentrer dans le rang, avec, si vous voulez, on l'appelle, vous savez comment on l'appelle Acquittator. C'est la palme d'or, si vous voulez, de la justice Acquittator. Il en a obtenu 146.
C'est ça.
Mais là, il va être, et il est toujours gladiator. Ouais. C'est un homme qui secoue les idées. Acquittator du gouvernement, pour l'instant, il faut qu'il y ait
une
équipe.
Vous venez de le dire, il va devoir aussi aplanir ses relations avec le monde de la magistrature. Ça va être compliqué, Catherine Ney.
Ça va être compliqué. D'abord,
il a voulu supprimer il n'y a pas très longtemps l'École nationale de la magistrature. Voilà, il y a tout un
lien. C'est pas qu'il a voulu, non. Il a souhaité qu'on la supprime.
Il a souhaité, oui.
Oui, mais c'est sûr que beaucoup de magistrats ne considèrent pas que son arrivée est une chance pour eux. Mais je crois qu'il ne va pas les prendre. Enfin, ce qui est drôle, c'est que les premières enquêtes à sa nomination à la chancellerie, c'est lui qui, c'est sur son bureau que va atterrir l'inspection demandée par Nicole Belloubet sur cette enquête du PNF et ses enquêtes préliminaires et les fadettes sur les avocats dont il avait porté plainte et il s'en est retiré. Donc ça, c'est vrai qu'on va l'entendre. Et il a dit, moi, je connais la justice. J'y ai vu le pire et le meilleur. Mais je veux garder le meilleur et je veux rejeter le pire. J'ai rencontré des grands magistrats, j'ai vu des victimes dévastées. La justice est une erreur millénaire, a-t-il dit. Donc il va essayer de corriger les excès si c'est possible. Alors aussi, il faut voir de quel cabinet il va s'entourer. Voyez. Alors, son directeur de cabinet, est-ce que c'est lui qui l'a choisi? Parce qu'il connaît bien la justice, mais ce n'est pas non plus un homme de réseau.
Ou est-ce là, qu'il est imposé par Matignon?
Voilà, parce qu'il a, son directeur de cabinet s'appelle Jean-François Bénel, et qui était directeur de cabinet adjoint de Christiane Taubira. Mmh. Donc, c'est déjà une connotation, si vous voulez. Mais c'était un homme de gauche, mais qui avait travaillé dans l'ombre pour Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, mais travaillé d'ailleurs à la numérisation, la révolution numérique au palais de justice. Mais enfin, si c'est son directeur de cabinet, est-ce qu'il va le retenir dans sa fougue? Est-ce que pourquoi celui-là a-t-il été choisi? Est-ce que c'est parce que Macron le connaissait? En tous les cas, il lui a été imposé, ça c'est sûr. Comme le directeur de cabinet du Premier ministre a été imposé par l'Élysée. Vous voyez.
Allez, enfin, remaniement.
Deux réformes de procédure très importantes qui veulent dire des choses. On en parlera.
Allez, à tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Thierry Dagiral, entouré des grandes voix, Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve, jusqu'à 19h.
Éric Dupond-Moretti, lors de la passation de pouvoir ce matin, qui disait « Je serai un garde des Sceaux de sans mêlée. Mon ministère sera celui de l'antiracisme et des droits de l'homme. » Charles Villeneuve.
Oui, d'accord. Mais ça, de toute façon, sur le plan des libertés publiques, on peut compter sur lui, il aura l'adhésion d'ailleurs de la magistrature. Là-dessus, il ne faut se faire aucun souci. Mais quand il vous dit « je rendrai le secret professionnel aux avocats », ça c'est un autre problème, parce qu'il y a quand même des juges qui, depuis 5 ans, ont finalement passé au peigne fin toutes les fadettes de tous les avocats, quels que soient les ténors du barreau, dont d'ailleurs Dupond-Moretti, d'où sa plainte retirée, parce qu'il devient le patron, si vous voulez, je dirais, hiérarchique des magistrats. Et est-ce qu'il sera le patron politique des magistrats? Ça, c'est une autre affaire. Mais surtout, quand il dit qu'il faut raccourcir les enquêtes préliminaires, parce que ça dure. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé, même s'il n'y a rien à trouver, ils continuent. C'est ça, justement, les excès de l'arrogance d'un certain nombre de magistrats et de la manière dont ils se couvrent les uns les autres. Ça, c'est le vrai corporatisme. Je disais à l'instant, le secret professionnel qui est essentiel entre un avocat et son client.
Bien sûr.
Mais oui, quand on appelle préliminaire, que ça soit...
Juste une anecdote sur le sang mêlé. Voilà.
Michel Coutard.
Borgi, que j'ai vu ce matin, me racontait qu'un lors d'un déjeuner qui avait eu lieu chez Nicolas Sarkozy et Dupond-Moretti s'étaient tombés dans les bras en disant « nous sommes tous les deux de sang mêlé ». Alors, c'est vrai qu'il y avait un espèce de clin d'œil dans ce qu'il a dit ce matin.
Darmanin peut le dire aussi. Elle le dit.
Bien sûr. Donc, non, mais ce petit clin d'œil, quand même, montre que même s'il est à gauche, même si son directeur de cabinet vient de chez Christiane Taubira, il y avait quand même, et ce sera aussi le cas pour Darmanin, un espèce de petit clin d'œil à Nicolas Sarkozy dans le vocabulaire et dans la courte allocution qu'il a prononcée ce matin lors de la passation de pouvoir. Cette courte allocution était absolument réglée au cordeau et ça a changé un peu de la ministre qui partait et qui là s'est longuement étendue sur ses difficultés.
Nicolas Sarkozy, on en parle aussi derrière le placement à l'intérieur de Gérald Darmanin. Charles Villeneuve.
Bah oui.
Nicolas Sarkozy a fait ce gouvernement ou pas?
Non, mais sans doute,
c'est
il a été consulté.
De dire
qu'il fait le gouvernement, il a été un souffleur, certainement. Il a été consulté par le chef de l'État. Mais bon, de dire qu'il fait le gouvernement, je crois qu'ils ont une relation qui est établie maintenant entre eux et qu'ils s'en parlent, c'est sûr. Mais je trouve un peu prétentieux de dire... il a fait le gouvernement, disons qu'il a participé, mais il n'est pas le seul.
Catherine Ney, c'est le retour de l'autorité, place Beauvau, enfin, C'est ce qu'on disait avec David Lebars à l'instant.
Ça pouvait pas être pire que ça n'était. Vous savez, les derniers épisodes où il y a des gens qui, quand même, le ministère de l'Intérieur qui s'accroche au ministère, là, comme si on entrait comme dans un moulin. Enfin, je veux dire, il y avait, en fait, pour une série de choses, et puis Castaner n'a pas, comme on dit, le fluide de l'autorité, puis il a un peu, enfin, les policiers n'en voulaient plus, il faut dire. La chose qui c'est. Bon, là, on va voir ce que va faire, mais déjà, il a bien commencé.
Il y a beaucoup à faire,
mais je pense que il fait penser, enfin, il veut faire penser à Nicolas Sarkozy, qui, à peine était-il arrivé à Beauvau, était parti visiter des commissariats.
Voilà, il est parti au Mureau dans les Yvelines.
Quand les policiers disaient « Mes respects, monsieur le ministre », il dit « Non, c'est moi qui vous respecte, c'est moi qui vous... » Enfin, donc, il avait vraiment donné de lui-même et il était adoré des policiers parce qu'il savait les prendre. Et ça, ils ont besoin de cette reconnaissance aujourd'hui. Donc, on va voir.
Le lieu qu'il a choisi pour cette première visite et cette première déclaration n'est pas anodin.
Au Mureau,
c'est Magnanville, c'est le massacre d'un couple de policiers en dehors même de leurs heures de travail, devant leur enfant. Et là, il a beaucoup parlé de l'islam radical.
Et là, je rajoute sur ce que vient de dire, Magnanville, c'était très important, parce que l'autre jour, il y a eu un rassemblement de policiers, parce que c'était l'odieux anniversaire de leur mort, leur assassinat. Et ils avaient été très surpris, parce que Christophe Castaner était venu et n'avait pas dit un mot, alors qu'ils avaient... Ils avaient envie d'avoir un discours de compassion.
Dire que Darmanin, en plus, c'est un ministre qui n'a connu jusqu'à présent que des succès. Donc c'est l'un des plus jeunes ministres, il a 37 ans.
Ex-maire de Tourcoing.
Vous rappelez quand même la bagarre de la retenue à la source pour les impôts.
Bien sûr.
Vous rappelez que pendant des mois, même le président de la République a douté, et c'est même lui qui a été obligé de dire au président de la République « Non, j'y arriverai à ce truc, j'y arriverai ». Et il y est arrivé. Il est d'ailleurs si bien arrivé que plus personne n'en a jamais parlé.
Mais tout le monde est très content.
Tout le monde était content. Donc, il y a la mairie, naturellement, donc c'est en plus un homme politique. Maintenant, pourquoi était-il je m'interroge toujours sur la fascination de certaines personnalités politiques, pas de toutes, sur le ministère de l'Intérieur. Parce que c'est un ministère très, très, très casse-gueule.
Et très important, et qui commence
généralement, qui commence généralement assez bien.
Ouais.
Et il y a toujours le risque d'une affaire tordue qui vous tombe sur le... Bon, donc, quelqu'un qui veut être ministre de l'Intérieur... C'est vraiment quelqu'un qui est blindé, quoi. Qui est blindé, alors il est un peu blindé, il a appris à être blindé avec Sarkozy, mais il aura sûrement appris à se blinder aussi fonctions actuelles.
Charles Villeneuve, puis on fait une pause.
Il y a, si vous voulez, c'est très intéressant le couple que vont constituer le ministre de l'Intérieur, qui est un caractère, qui est très dynamique, qui, comme l'a dit Michel, a réussi quasiment partout où il est passé. Et puis Dupond-Moretti, qui est un caractère très fort.
Ouais.
Et vous savez que par leur nature même, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur sont conflictuels.
Oui.
Et là, si vous voulez, la manière dont les forces de sécurité, notamment, avaient quasiment rejeté le précédent ministre de l'Intérieur, le président de la République ne peut pas, à 18 mois des élections présidentielles, avoir les forces de sécurité contre lui.
Exactement. Allez, on marque une pause et puis on parle d'une revenante dans un instant. A tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Thierry Dagiral et les grandes voix Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve jusqu'à 19h.
Et on a 5 minutes pour parler d'une revenante. Elle était ministre de Chirac, ministre de Sarkozy. Elle est partie faire la télévision. Elle revient, Roselyne Bachelot, Michel Cotta.
Revenante,
en politique,
elle n'est jamais vraiment partie.
Non.
Mais c'est vrai que c'est un poste qu'elle convoitait beaucoup, qu'elle convoitait même du temps de Jacques Chirac.
Des dossiers qu'elle maîtrise.
C'est quelqu'un qui a une passion pour la musique, notamment pour Verdi. Elle a écrit un livre sur Verdi. C'est quelqu'un qui est vraiment sans ostentation, quelqu'un qui aime la culture. Et qui connaît maintenant la télévision. Alors, comme le ministère de la Culture est aussi celui de la communication, il y a une chance pour que pas trop de bêtises ne soient faites en matière de communication. Or, comme vous savez, dès qu'un ministre de la Communication arrive quelque part, il change Il change les rouages de la télévision, mais là, il semblerait que ce soit le contraire et qu'une réforme qui était en cours soit en train de s'arrêter. C'est une bonne chose. Mmh. Voilà, c'est quelqu'un de drôle, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup connu sur les plateaux, qui fait beaucoup semblant de gaffer, ouais. Et puis qui a aussi son naturel et qui a aussi son caractère.
Et c'est un caractère également qu'il va falloir encore gérer pour Castex, Charles Villeneuve.
Écoutez, comme vient de le dire Michel, c'est une femme qui a du talent, qui est une pharmacienne. Vous savez que ce sont des études longues et très difficiles. Elle connaît les médicaments, donc elle en administre de temps en temps, manifestement.
Et elle a hérité du siège de son père, Jean Arc.
Elle peut être aussi corrosive. Et elle a un humour parfois cinglant. Et en tout cas, on est allé la chercher, là aussi, la culture, en général, c'est plutôt dans la lignée de langue et tout, on est allé la chercher. Quand même, c'est une chiracienne et quand même à droite, centre droit, ça fait beaucoup dans ce gouvernement.
Mais justement, beaucoup.
C'est intéressant. Ouais.
Au fond, on disait que le premier gouvernement, c'était, il y avait quelques personnes de droite, hein, des postes certes très importants, et un gouvernement grosso modo plutôt centre-gauche. Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt le contraire.
Bien sûr.
C'est plutôt les centre-gauche qui font exception.
C'est une femme de droite.
Elle était
un peu seule dans son groupe sur le mariage.
Sur les femmes.
Sur le PACS. Ça, elle était défendue.
Sur le PACS, je me rappelle le courage qu'elle a eu sur le PACS dans l'Assemblée nationale, où elle était la seule interlocutrice de son groupe. Apporter son soutien.
Mais on va finir là-dessus, finalement. On a recruté à droite. Ça montre quand même la fragilité du vivier La République En Marche, Charles Villeneuve.
Ben moi, je trouve ça un peu regrettable parce que je crois que le vivier est plus important qu'on ne le croit et qu'on ne le fait pas fructifier. Et il y a quelques députés, des jeunes députés que je connais, etc., qui ont de la qualité et qui peuvent être promus. Et c'est assez curieux,
pas
si vous voulez, qu'on
alors,
ne le...
À deux ans d'une présidentielle.
Non, je trouve que... Non, mais là, il faut qu'il renforce.
Il fallait du
poids
lourd.
Parce que son socle, s'il y a un axe Parti Socialiste Vert, il est bien évident qu'il va travailler plutôt son socle de droite. Et c'est ce qu'il a fait, parce que ce gouvernement est fait d'abord les trois grands ministres clés régaliens, le Premier ministre, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, le ministre de l'Intérieur, évidemment, sont des ministres qui sont du centre droit, au moins... Et qui ont des choses à dire et qui sont assez costauds.
Comme l'est aussi Blanquer.
C'est un calcul électoral. C'est quand même un calcul électoral. La pêche à gauche n'a rien donné.
N'a rien donné.
Depuis le début. Et en plus, la gauche ne donne rien.
Et le coup de fil à Ségolène Royal n'a rien donné.
Sauf les écolos. Donc c'est les écologistes qui maintenant mènent ou ont pris la tête d'une certaine gauche, mais c'est vrai qu'on aurait pu leur proposer n'importe quoi, ils auraient dit non en ce moment. Par conséquent, du côté de la gauche, c'est un peu tari. Et ils jouent volontairement.
Le président a beau passer ses chalutiers à gauche, il joue
volontairement la division de la droite.
C'est ça qu'il joue pour son élection.
Oui. La division de la droite.
Oui. Il y a eu la débâcle au municipal. La République En Marche n'est pas en ce moment en plein doute existentiel. Finalement, on se dit, on recrute à droite, on va prendre chez les Républicains, on va prendre à droite toute. Mais finalement, on n'a pas d'équipe encore. On n'est pas opérationnel, c'est pas un vrai parti, Charles.
On ne peut pas faire un vrai parti en trois ans.
C'est vrai que ça ne pèse pas, ça ne compte pas. Ça rejoint parfaitement le raisonnement, la démonstration de Michel qu'elle vient de faire. Simplement, les Républicains, eux aussi, si vous voulez, concerne la vision et si vous voulez les leaders, ils sont quand même aux abonnés absents. Donc, évidemment, on va pêcher là où il y a quand même quelques personnalités de qualité et qui sont libres.
Catherine Ney.
Oui, moi je pense que c'est aussi un hommage aux Républicains parce que on va quand même chercher. Il y a chez eux les meilleurs ministres viennent quand même du camp républicain. Ils sont plus au Parti républicain, mais donc
du même coup, le Parti républicain a des problèmes.
A des problèmes parce que il y a un problème de ressources humaines qui va se poser à tous les partis. Donc ça c'est le génie de Macron parce que il aura inventé. Édouard Philippe, qui est en réserve de la République, on verra. Et puis, on voit bien que le choix de Castex, quand on dit ça sera monsieur, tout ça, mais c'est un homme qui a beaucoup de caractère. Et il y aura des discussions avec le président. Il ne laissera pas faire n'importe quoi. Et je pense que lui aussi, c'est quelqu'un qui va surprendre.
Et surtout, il embarrasse beaucoup
Michel
la droite. Il embarrasse beaucoup les Républicains.
Mais finalement, le seul fil rouge, c'est qui? C'est le chef de l'État. Ouais. Finalement, c'est Emmanuel Macron.
Merci à vous. Merci beaucoup. Les grandes voix remaniement le jour d'après. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Europe 1.